Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio Globule Radio 90.5 FM à Chamonix. Dans mon groupe, il y a Erwan le technicien, Lilia le conducteur, Maxence le responsable des fichiers et moi-même, Julie, l'animatrice. Nous sommes des élèves de Jeanne d'Arc. Erwan, peux-tu nous en dire plus sur notre projet ?
Nous participons à un projet sur la biodiversité avec notre professeur Madame Mère.
Durant cette émission, vous entendrez premièrement Lilia qui va nous parler de l'équitation, Erwan qui va prendre la parole sur l'histoire des télésièges à la vallée de Chamonix, Maxence sur les requins et moi-même qui va vous partager des informations sur le film Avatar.
C'était nos chroniques personnelles et nous poursuivrons sur les interviews ou les reportages.
Vous pourrez retrouver la rediffusion sur notre émission sur le site Globule Radio. Dans quelques instants, Lilia va nous présenter sa chronique personnelle sur l'équitation.
Bonjour, saviez-vous que l'équitation est le troisième sport le plus pratiqué en France et le plus populaire chez les femmes ? Maintenant, certains d'entre vous vous demandent surtout, est-ce que l'équitation c'est vraiment un sport et est-ce que ça muscle vraiment ? Le mot, il provient du latin equitare, qui signifie monter à cheval. L'équitation fut longtemps une pratique largement masculine, en particulier dans les pays occidentaux. Elle devient mixte au cours du XXe siècle et attire désormais une majorité de femmes dans ces pays.
C'est vrai, on se le demande. Peux-tu nous dire, par exemple, quelle partie du corps se muscle grâce à l'équitation ?
Merci Julie. L'équitation muscle en priorité les membres inférieurs comme fessiers, quadriceps, adducteurs et mollets. Que cela soit pour garder l'équilibre en selle ou exercer des pressions des jambes. L'équitation va améliorer le tonus musculaire et même si monter à cheval ne demande pas d'efforts musculaires intenses, tu vas sentir une tonicité contrôlée des jambes, des fesses, du dos, de la ceinture abdominale et des bras. Une autre preuve que l'équitation est un sport, c'est qu'il fait partie des disciplines olympiques selon Mélodique Levernier, qui est entrepreneur individuel. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Elle précise que l'équitation apporte de la confiance en soi et une bonne condition physique. En gros, l'équitation va augmenter ses capacités respiratoires. Il fait travailler l'équilibre et ça travaille la posture et se pratique en équitation.
Si l'on considère l'équitation comme un sport, je suppose qu'il y a, comme dans tous les sports, des risques de blessures.
C'est en galop que les risques sont les plus élevés. Un cavalier de galop, dressé haut sur les étriers, file à peu près de 60 km par heure. Et le moindre écart peut entraîner une chute de cheval. Le plus grand risque est que lorsque le cheval tombe et entraîne son cavalier dans sa chute. Le cheval risque de lui tomber dessus alors que cela est très dangereux. Car un cheval pèse environ 400 kg, donc 5 fois plus le poids du jockey. Bien sûr, les accidents mortels restent rares. Mais certains jockeys passent beaucoup de temps à l'hôpital pour peu sur les pistes. Le steeplechase, en sa qualité de course de galop, comportant des sauts, est de loin le type de course le plus dangereux. À une vitesse de course de galop, le jockey et son cheval franchissent de très grands obstacles. Une rivière à Hatteuil mesure plus de 8 mètres de long et les chutes n'y sont pas rares. De plus, dans ces courses, les chevaux galopent vont si vite et si proches de l'un des autres que la chute d'un seul pousserait les autres à trébucher sur son corps, exposant les cavaliers et les chevaux à des coups de sabot et à des chutes s'additionnant à l'heure. Bref, mon résumé, c'est que si vous faites de l'équitation, vous devez être conscient des risques et des blessures possibles. Quand on fait une course, il est impossible de tout prévoir. On peut ajouter des airbags, des limitations de vitesse à une voiture, mais en cheval. Aussi, cela muscle beaucoup de parties de corps. En premier, les fessiers, les quadriceps, les adducteurs et les mollets. Et pour ceux qui pensent que l'équitation n'est pas un sport, je vous l'ai prouvé juste ici. Si vous voulez en savoir plus, mes sources ont été principalement Wikipédia, Google et Unihorse.
Merci Ilia pour cette chronique et je vais maintenant vous laisser avec la musique Another Love par Tom Odell.
somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used
Je vais maintenant passer la parole à Erwan qui va nous parler de l'histoire des télésièges.
En tant qu'habitants de la vallée de Chamonix, nous prenons tous régulièrement des télésièges. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui avait imaginé le premier télésiège et à quoi ressemblait ce dernier ? Je vais parler de l'histoire du télésiège dans la vallée de Chamonix. C'est en 1922 que le premier télésiège a été imaginé par Jules Cachat de Chamonix. Ce télésiège se situait sous le sommet des Posettes. Autour, ce dernier ressemblait un plateau circulant sur un câble. Niveau sécurité, ce n'était pas ça. Et en plus, on penchait d'un côté à un autre. Mais les skieurs étaient quand même contents de se faire transporter. Mais à la base, ce plateau servait à l'exploitation de l'ardoisière. Et ce fut le premier télésiège au service du transport des hommes.
Mais alors, où se situe le premier télésiège moderne ?
Le tout premier télésiège moderne dans la vallée se situe à Charamillon, au-dessus du village du Tour, et a été construit en 1957. C'était un télésiège débrayable, biplace, et vu comment on était serré, on n'allait pas avoir froid.
Et les créateurs ?
C'est Jean Pomagalski, un ingénieur mécanicien. Il était né en Pologne et naturalisé français. Il fut un pionnier dans le développement des remontées mécaniques pour les skieurs. Et maintenant, c'est la compagnie du Mont Blanc qui s'occupe des télésièges dans la vallée. C'est quand même bien de savoir que les télésièges font continuellement de grandes évolutions. Parti d'un plateau circulant sur un câble pas sécurisé, maintenant on est en sécurité, avec de l'espace, et cela a beaucoup gagné en rapidité.
Vous allez maintenant écouter l'artiste David Kushner avec son titre Daylight.
Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living. But I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drip the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Same vibe. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time.
Bien sur la radio, Globule Radio 90.5 FM. Nous sommes en quatrième et nous participons à un projet en groupe sur la biodiversité.
Julie va maintenant vous lire sa chronique personnelle sur le film Avatar.
Si vous voulez en apprendre plus sur le film Avatar, c'est ici. Il est sorti en 2009. C'est James Cameron qui l'a créé. Il se chargeait du scénario et de sa réalisation. Et James Horner, lui, s'occupait du son.
Et ce James Cameron, il a créé d'autres films ?
Oui, dans une interview, James Cameron, sur le site Dailymotion, disait qu'il avait créé le film Titanic en 1987, Le Retour des Aliens en 1986 et Terminator en 1984. Que de gros succès.
Ah bon ? Et sait-on s'il y aurait une suite aux deux premiers films Avatar ?
Effectivement, le film Avatar est en lien avec l'environnement, car comme on peut le voir, les Navis font tout pour défendre leur territoire contre des humains qui la déforestent.
Et ce James Cameron est-il engagé pour la protection de l'environnement ?
Oui, le réalisateur, lors d'une interview, que le film Avatar soit un geste écologique et qu'il n'y a aucun coût de marketing. Il dit, je cite, « Je suis content d'avoir eu l'opportunité de partager grâce au film Avatar un message pour l'environnement. »
Merci Julie, c'était très intéressant. Je vais vous laisser avec la musique The Look par Roxette.
Thank you.
Pour finir sur les chroniques, je vais laisser la parole à Maxence qui a comme sujet les requins.
Quand un requin attaque ?
Certaines espèces de requins sont plus actives la nuit ou autour de l'aube et du crépuscule. D'autres apparaissent plus entreprenantes le jour. Cependant, la plupart ont des pratiques de chasse crépusculaire ou nocturne et s'alimentent principalement dans la pénombre et l'obscurité.
Comment réagir face à un requin ?
La première chose à faire est de rester calme et de ne pas paniquer. Il ne faut pas chercher à fuir ou de faire du bruit. Sinon, si on se comporte comme une proie, on va attirer la curiosité du requin.
Où se situent les requins ?
Les requins pélagiques vivent au large des mers et des océans. C'est parmi eux qu'on trouve les plus grandes espèces de poissons. Ils habitent dans les eaux tempérées et tropicales et un nombre d'entre eux sont des espèces migratrices.
Les requins sont dangereux ?
Les trois requins les plus dangereux au monde sont le grand requin blanc, le requin tigre et le requin bulldog. À eux trois, ces prédateurs sont responsables de la grande majorité des attaques mortelles.
Quels sont les requins inoffensifs ?
Les requins les plus inoffensifs sont le requin à collerette, le requin baleine, le requin roussette ou la rosette, le requin pèlerin et le requin renard.
Merci Maxence pour cette chronique très intéressante qui peut tous nous sauver la vie. Et on va poursuivre avec la musique L'écologie, sauvons la planète.
Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'ordre organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone. Mais sans elle, personne n'est autonome car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautives cette fois. Dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit, comment ne pas respecter la nature. Sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise. Et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Vous encore raser des forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une rente pour les pays aux ressources vitales économiques bon, au plus bas, pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Ara, de la forêt d'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays. D'espèces animales et le plus de ces conneries. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme de croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète.
Yeah! Yeah!
Vous êtes toujours sur la radio Globule 90.5 FM en direct avec un groupe de 4e. Et maintenant, je vais passer la parole à Lilia. Mais Lilia, quel sujet vas-tu nous présenter ?
Je vais vous parler des différents avis sur les loups. Donc, j'ai fait mon micro-trottoir sur les loups puisque ces derniers temps, il y a eu beaucoup de loups qui sont dans la vallée. Il y a même des attaques, environ 5-7. Je trouve que ce sujet est très intéressant, mais aussi délicat et émotionnel pour les maîtres. Parce que la plupart, beaucoup de chiens ont eu des mauvaises rencontres avec ces prédateurs. Une grosse partie de la population aime les loups, mais sont plutôt tristes avec ces attaques. Mais est-ce que le loup, il protège juste quelque chose qu'il aime, comme ses louveteaux ? Est-ce que dans son monde, c'est nous les prédateurs ? J'espère que vous aimerez mon travail sur les loups. Et vous, que pensez-vous de la présence des loups dans notre vallée ?
I think the wolf does do some environmental good things, but it's not so nice when you see that it's killed goats or sheep and things. Are you doing a survey for school?
I'm doing a radio project.
Okay.
Well, thank you.
De quel loup parlez-vous ? Si c'est des touristes, il y en a vraiment trop, mais si c'est des animaux, il n'y en a pas assez.
Je sais qu'il y en a quelques-uns à Valorcine. Et moi, je ne dois pas le dire, mais je suis pour la présence des loups. Et je pense que les gens qui se battent pour les loups devraient prendre des précautions. Il y a les patous, il y a aussi les clôtures, et que les loups ont le droit de vivre. Et j'aime beaucoup les loups.
Ben, je pense que c'est bien, mais qu'il faut faire attention aux paysans qui ont des brebis. Et voilà. Mais j'adore les loups, alors je ne vais pas te dire que je ne veux pas qu'ils viennent. Voilà.
C'est qu'on n'est pas d'ici aussi, donc c'est ça le souci. Mais il en faut. Ils étaient là avant nous, donc est-ce qu'il faut des loups, est-ce qu'il n'en faut pas ? Il faut voir avec les bergers, il faut que tout le monde soit d'accord.
Merci Lia pour ce micro-trottoir et la prochaine musique est « Dès que le vent soufflera » de Renaud.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent ». La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, la mer qui prend l'homme, moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Cavardi, Pajot, Kersauzon et Ridel n'habitent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin. Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en arrond de lapin.
êtes encore sur Globule Radio 80.5 FM. Nous sommes en quatrième et nous participons à un projet en groupe sur la biodiversité. Et maintenant, je vais vous présenter l'interview de Julie sur les gypaètes barbus.
Bonjour Étienne Marlet, vous chargez de l'unique centre d'élevage français de gypaètes barbus à Sallanches. Depuis quand exercez-vous ce métier et quelle formation avez-vous faite ?
Bonjour, donc en effet ça fait une quinzaine d'années que je travaille pour Aster, le conservatoire d'espaces naturels, et j'ai une formation générale dans l'environnement.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Alors je voulais absolument travailler dehors et en montagne, et donc après c'est les opportunités de stage, de rencontres avec le gypaète barbu qui m'a fait m'orienter vers ce genre de travail.
Et combien êtes-vous dans ce centre d'élevage et quels sont leurs rôles ?
Alors, on est deux principaux salariés à travailler sur le centre d'élevage, mais on a d'autres collègues qui nous donnent des coups de main. L'objectif du centre d'élevage, c'est d'avoir des gypaètes barbus donc en captivité, dans des cages, qui sont adultes, qui se reproduisent. Et les poussins issus de cette reproduction sont relâchés, réintroduits dans le milieu naturel, dans les Alpes ou ailleurs, pour essayer de reconstruire la population des Alpes, des gypaètes barbus dans le milieu naturel.
On va maintenant passer aux gypaètes. Y a-t-il d'autres régions où il y a des gypaètes ?
Alors les gypaètes barbus, on les trouve dans les Alpes, hein, mais pas que les Alpes françaises, aussi en Suisse, en Italie, en Autriche. On en trouve également dans les Pyrénées, pour la France, également en Corse, et de plus en plus maintenant dans le Massif central, où il y a également des opérations de réintroduction.
Et je sais que leurs nids sont sur des falaises. Comment font-ils pour être sûrs qu'ils tiennent ?
Alors, je pense que les adultes, ils passent pas mal de temps à justement construire leur nid en apportant des branches, de la laine, comme tu dis, sur des falaises, dans des parois où il y a des failles, des trous. Et probablement que des fois, ils construisent des nids qui tombaient et donc ils changent de nid. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trop eu connaissance de poussins, par exemple, qui seraient nés dans un nid et qui seraient tombés à cause du nid qui tombe.
Et maintenant, on va s'intéresser à ce que vous faites dans le centre. Depuis quand et pourquoi l'espèce est en voie de disparition ?
Alors, c'était au début du XXe siècle que nos arrière-arrière-grands-parents ont fini d'exterminer les derniers gypaètes barbus qu'il y avait dans les Alpes, parce qu'on en avait peur, on pensait qu'ils enlevaient les moutons, qu'ils mangeaient les enfants, qu'ils se trempaient dans le sang de ses victimes. Alors que tout ça, c'est des légendes. Le gypaète barbu, c'est un charognard, il mange que des animaux morts. Donc, il ne peut pas tuer qui que ce soit. Donc voilà, c'est à partir de là qu'il y a eu un programme de réintroduction du gypaète, de relâcher des jeunes gypaètes nés en captivité dans le milieu naturel.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les actions menées par votre centre ?
Alors le centre en lui-même, c'est vraiment pour la production de poussins. Donc on va produire des poussins, on va essayer que les adultes se reproduisent, d'avoir un ou deux œufs et d'aider à l'éclosion. Et une fois qu'ils ont 3 mois, les poussins, ils sont encore jeunes, ils ne savent pas voler, on va les réintroduire dans le milieu naturel, dans les Alpes ou dans le Massif central ou d'autres endroits pour essayer de les relâcher. Donc ça, c'est une partie du centre d'élevage, mais il y a une autre grosse partie de notre travail qui est aussi d'essayer de rendre tranquilles les endroits en montagne où ils nichent le gypaète barbu. Les adultes, quand ils choisissent un nid quelque part dans le milieu naturel, on essaye de limiter les activités humaines autour. Par exemple, de limiter un petit peu l'escalade ou les parapentistes ou le passage d'hélicoptères ou des choses comme ça pour pas déranger le là où ils se mettent.
Pourquoi a-t-on besoin d'un centre d'élevage dans la région ?
Alors, dans la région ou ailleurs, disons qu'il y a un historique assez important avec notre association qui travaille depuis très longtemps sur le centre d'élevage. Et dans les années 70-80, il y a eu aussi beaucoup d'autres réintroductions d'espèces dans le département, notamment le bouquetin, la marmotte. Et donc, il y a eu pas mal d'actions comme ça. Il y a maintenant d'autres centres d'élevage en France. Il y en a un notamment dans les Pyrénées françaises qui vient juste d'ouvrir. Donc, nous ne sommes plus l'unique centre d'élevage français.
Et combien de gypaètes barbus sont nés dans votre centre ?
Alors, on a un centre avec une petite capacité, puisqu'on n'a que 4 volières, mais depuis le début, on a une quinzaine de poussins qui sont nés dans notre centre d'élevage.
Et ces gypaètes sont-ils toujours dans la région ?
Andalousie, dans le sud de l'Espagne, donc ils ne sont plus du tout dans les Alpes depuis le début. Il y en a même qui ont été relâchés, donc bébés, à 3 mois, qui aujourd'hui sont des adultes qui se reproduisent. Il y en a d'autres, malheureusement, qui sont morts, dont on a retrouvé le cadavre, pour différentes raisons. Et il y en a qui ont été relâchés dans le milieu naturel, dont on n'a pas idée maintenant d'où ils sont. Donc peut-être que dans plusieurs années, on retrouvera leurs traces grâce à la génétique, ou si on les retrouve morts. Mais on a plusieurs individus dont on ne sait pas où ils sont maintenant.
Et comment et où est-ce qu'on peut les observer ?
Alors dans le milieu naturel, en montagne, on peut les observer un petit peu partout dans le département, notamment sur le massif du Bargis, ou dans les Aravis, ou sur le massif Arvegifre, vers Flaine ou Sixfer à cheval. On peut les voir assez souvent, puisqu'il y a plusieurs couples qui sont installés par là.
Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y aurait un sujet que je n'ai pas abordé dont vous voudriez parler ?
On peut parler de plein de choses sur le JPAET Barbu. Là, on a évoqué vraiment le centre d'élevage et on peut plus peut-être parler des actions, comme on dit, de conservation, c'est-à-dire qu'on va essayer de lutter aussi contre les causes de mortalité. Par exemple, on sait qu'il y a des gros problèmes de mortalité contre les câbles de remontée mécanique ou les câbles d'électricité. Les oiseaux, ils ne les voient pas trop, ils se percutent dedans. EDF, RTE, tout ça pour essayer de visualiser les lignes avec des petites boules, comme à la piscine avec les flotteurs, pour que les oiseaux les voient mieux. Donc ça, c'est une des actions qu'on est en train de mener avec l'ensemble de ses partenaires.
D'accord, très intéressant. Nous allons clôturer là-dessus.
Merci, bonne journée à vous.
Merci Julie et Étienne Marley. C'était très intéressant. Et vous allez maintenant écouter la musique « L'odeur de l'essence » de Orlesan.
Nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée.
Regarde.
L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé.
Regarde.
La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer.
Regarde.
Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés.
Écoute.
La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger.
Écoute.
La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler.
Écoute.
La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser.
Écoute.
La haine les faire basculer dans les extrêmes allumés. Mais l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique.
Regarde.
Tout est réel, tout est systémique.
Regarde.
Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible.
Regarde.
Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible,
sensible.
Tout est sensible.
Sensible.
Tout le monde est sur la défensive.
Sensible.
Sujet sensible, personne sensible.
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 Tout est sensible.
Sensible.
Tout le monde est sur la défensive.
Sensible.
Sujet sensible, personne sensible.
Sensible.
Sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens. Comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompu, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque de repères, perdant la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques, tu n'es pas cool. D'autres étaient déjà nostalgiques, tu n'es pas cool. Putain.
putain. Les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. Sait pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Vous êtes encore sur la radio Globule 90.5 FM. Nous sommes en quatrième et nous participons à un projet en groupe sur la biodiversité. Voici la première partie de l'interview d'Erwan sur la gestion des forêts.
Bonjour Monsieur Ponsard, quelle est votre activité au sein de l'ONF ?
Mon activité tout au long de l'année, c'est de surveiller ce qui se passe en forêt et puis aussi de proposer à la commune des travaux, des coupes de bois et de mettre en œuvre tous ces travaux.
À quoi sert l'ONF ?
L'ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire qu'il remplit à la fois une mission de service public et aussi il a une activité commerciale. Et l'ONF travaille dans 5 grands domaines qui sont le cœur de métier à travers la forêt, le bois et la sylviculture, également l'environnement, la biodiversité, les risques naturels, et puis aussi le loisir nature, l'accueil du public, et 2 autres domaines comme la compensation écologique et le label bas carbone.
Depuis quand l'ONF existe ?
L'ONF existe sous sa forme actuelle depuis le milieu des années 60, plus précisément 1965-1966. Avant, ça s'appelait l'administration des eaux et forêts. C'est une dénomination que certaines personnes connaissent encore et utilisent encore, même si voilà, le statut a changé déjà depuis de nombreuses années. Mais si on remonte encore plus loin, les premières traces de règles de gestion forestière remontent à la fin du XIIIe siècle, au Moyen-Âge, en 1291, une ordonnance voilà, qui pose les bases un petit peu des premières règles sur la gestion forestière. La forêt, c'est un écosystème qui peut tout à fait se débrouiller de manière autonome.
Une forêt peut être autonome.
En revanche, ce qui se passe si elle se débrouille toute seule, c'est qu'elle va évoluer d'une certaine manière et les fonctions qu'elle va remplir par rapport à la société humaine ne seront plus aussi. Donc l'intérêt d'avoir des zones qui évoluent librement et d'autres zones dans lesquelles on intervient sont vraiment complémentaires pour pouvoir justement profiter de toutes les fonctions différentes de la forêt.
Comment protéger et entretenir une forêt ?
Une forêt, donc comme je disais, il y a un certain nombre de règles et de lois qui sont regroupées au sein du code forestier. Comme il existe le code civil, le code de la route, il y a le code forestier pour ce qui concerne la forêt. Tout ça organise et protège d'une certaine manière la forêt. Et puis ensuite, il y a le comportement de tout à chacun, des citoyens qui se doit de prendre en compte cette forêt et les usages, les autres usagers, pour entretenir et protéger cette forêt. C'est l'affaire de tous.
Combien d'espèces d'arbres y a-t-il dans la vallée ?
Dans la vallée, il y a de nombreuses espèces parce que la forêt, elle regroupe des zones qui évoluent sur des altitudes différentes, depuis le fond de la vallée autour de 1000 mètres d'altitude jusqu'à plus de 2000 mètres. Et donc, on a environ une dizaine d'essences qui sont les plus répandues, cinq espèces de résineux, dont une qui prédomine largement, qui est l'épicéa. Ensuite, on a aussi un petit peu de mélèze, du pin sylvestre, du sapin et aussi du pin sambreau, plus communément ici la rolle. Et du côté des feuillus, on a aussi, qui sont présents quand même en moins grand nombre, si on regarde par rapport à la surface. Et c'est essentiellement du bouleau, de l'aulne blanc, qu'on appelle la verne ici, et puis des saules, des érables et des sorbiers.
Peut-on replanter des arbres de partout ? Sinon, pourquoi ?
Potentiellement, on peut essayer de planter des arbres. Ce n'est pas forcément intéressant pour différentes raisons. Déjà, la plantation en elle-même représente un coût. Donc, c'est encore plus vrai sur les forêts de montagne. Selon où se situe le chantier de plantation, ça peut être assez difficile d'accès. Il n'y a pas forcément d'accès avec des véhicules. Il n'y a pas forcément de terrain plat, etc. Donc, ça complexifie tous ces chantiers et à chaque fois, le coût augmente. Donc, il faut bien calculer un petit peu le ratio entre l'intérêt qu'on a à planter et le coût que ça représente. Donc il y a aussi après tout un tas d'aléas météorologiques et aussi le gibier qui peut influencer la réussite d'une plantation. Parfois, il vaut mieux laisser faire la nature et laisser les graines naturelles se semer toutes seules et régénérer la forêt. Ce sont les deux grandes techniques de régénération de la forêt, soit par plantation, soit par régénération naturelle.
Pourquoi coupe-t-on des arbres, mais on ne voit pas les replanter ?
Il y a différentes façons donc de régénérer la forêt, comme je le disais à l'instant, soit en laissant faire la nature. Les graines vont s'implanter toutes seules et des fois, ça prend un petit peu de temps. Parfois, ça ne marche pas non plus pour différentes raisons, parce que le sol est trop sec, parce qu'il y a déjà de la végétation au sol de la forêt à la place des arbres qui sont partis, parce qu'il peut y avoir peut-être aussi du gibier qui vient grignoter les petits plants dès qu'ils montrent le bout de leur nez. Voilà, il y a différents facteurs qui peuvent faire en sorte que les semis naturels n'arrivent pas à pousser. Donc là, parfois, il faut planter. Donc on ne plante pas systématiquement après une coupe de bois. Ce n'est pas forcément nécessaire. Mais si, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ça ne vient pas tout seul, eh ben, on peut procéder, dans certains cas, à la plantation. Et quand on plante, les arbres étant très petits, de toute petite taille, et la croissance est lente hein, quand même au départ, ça ne se voit pas forcément. Donc c'est vrai que des fois, peut-être qu'il peut y avoir des zones plantées, mais qui passent inaperçues, donc on ne s'en aperçoit pas forcément.
Merci Erwan pour ce début d'interview. Je vais poursuivre avec la musique « La biodiversité, c'est la vie ». Continuons sur la deuxième partie d'Erwan.
À quelle saison peut-on couper des arbres ?
Il y a différentes périodes qui peuvent être intéressantes pour couper les arbres. Ça va dépendre beaucoup du contexte dans lequel on le coupe. Ici, en forêt de montagne, on a une forte activité touristique. Donc, en été, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour réaliser des chantiers de coupe de bois, qui sont des chantiers qui font un peu du bruit, qui prennent de la place, qui obligent à fermer un certain nombre de chemins. Donc, on va plutôt chercher à couper du bois au printemps ou à l'automne. Évidemment, en hiver, avec la présence de la neige, ça empêche aussi d'intervenir dans beaucoup de zones. Puis après, il peut y avoir aussi d'autres contraintes, comme certaines espèces rares ou protégées qui peuvent être présentes sur les zones d'intervention. Donc à ce moment-là, on va tenir compte de la présence de ces espèces pour intervenir au moment où on les dérange le moins possible.
Quel sera l'avenir dans 20-30 ans pour les arbres ?
Alors ça, c'est une grande question. Beaucoup de personnes travaillent dessus, des techniciens, des scientifiques, différents organismes, y compris l'ONF, évidemment, travaillent sur cette question. Clairement, personne n'a de réponse très précise sur la question. C'est un petit peu, on peut faire le parallèle un peu avec la météorologie. On sait quelle météo il fera dans un ou deux jours, assez précisément. Par contre, on ne sait pas quelle météo il fera dans un mois. Les météorologues ne sont pas capables aujourd'hui de donner avec précision ces informations-là. Les avancées scientifiques permettent d'améliorer ces précisions. Dans le même cas, dans les années à venir, on sait un petit peu ce qui va se passer. Dans plusieurs décennies, c'est très difficile de savoir. Après, comme pour la météo, il y a quand même des tendances qui se dégagent. On sait qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir plus de chaleur l'été, peut-être moins de précipitations aussi l'été, précipitations un petit peu décalées peut-être dans la saison. Certaines essences de bois seront moins adaptées au futur climat. Donc, on sait par exemple que l'épicéa, sur les zones de basse altitude, en fond de vallée, va être de moins en moins à sa place. Il va de plus en plus souffrir et donc il va être plus sujet à des dépérissements, à des attaques de parasites, d'insectes ou autres maladies, parce qu'il va être affaibli à cause des conditions climatiques qui ont changé. Ce qui ne veut pas dire qu'il va disparaître totalement et entièrement en quelques années, mais on sait que les forêts vont évoluer assez fortement dans les prochaines décennies. Par exemple, aujourd'hui, certains chercheurs travaillent pour fabriquer des outils qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de savoir quel climat on aura ici dans un certain nombre d'années. Et on sait, par exemple, que sur les Alpes du Nord, la Haute-Savoie et une partie de la Haute-Savoie, on aura un climat qui sera beaucoup plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, dans la Drôme, le Vaucluse, l'Ardèche, les Cévennes, des régions qui sont beaucoup plus basses en altitude et beaucoup plus au sud. Donc, plus chaudes, avec moins de précipitations. Voilà, donc ça donne un peu une petite idée de comment pourrait évoluer le milieu à l'avenir.
Merci Erwan et Frédéric Ponsard.
Merci à vous. Bonne journée.
Pour cette interview, je vais vous laisser avec la musique La Terre est ronde de Gertrude Stein.
Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même.
Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Les rappeurs qu'un rit donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je ramènerai l'équipe en attendant merci d'appeler, mais s'il te plaît parle après le bip. Aujourd'hui je me sens bien, je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin. On verra bien si je me perds en chemin.
Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde.
fait tout ce qu'on peut faire plus tard.
Plus tard.
Tout ce qu'on veut, c'est profiter de l'instant.
L'instant.
On s'épanouit dans la lumière du soir.
Du soir.
Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant.
Maintenant.
Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard.
Plus tard.
Tout ce qu'on veut, c'est profiter de l'instant.
L'instant.
On s'épanouit dans la lumière du soir.
Du soir.
Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre maintenant.
Au fond, je crois que la terre est ronde.
La terre est ronde.
Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Vous êtes encore sur Globule Radio 90.5 FM. Nous sommes en quatrième et nous participons à un projet en groupe sur la biodiversité. Maintenant, pour la dernière interview de notre groupe, Maxence va nous informer sur les bouquetins.
Bonjour Monsieur Bruno, est-ce que les bouquetins ont un rôle important dans la biodiversité ?
Bah, comme tout élément de la chaîne alimentaire, il est important. C'est un animal qui est emblématique de la montagne. Ça fait partie, on dit, du Big Five des aiguilles rouges. Donc oui, c'est un élément très important dans la biodiversité, notamment la biodiversité en montagne.
Est-ce que le bouquetin est une espèce protégée ?
Oui, c'est une espèce qui est protégée, le bouquetin en France.
Alors, depuis quand est-elle protégée ?
Alors, le bouquetin est protégé depuis sa réintroduction dans les années 80. Il me semble que la réintroduction dans les massifs des aiguilles rouges, c'est 84 et 86. Donc depuis les années 80, 1980, il est protégé en France. Il n'est pas protégé partout, hein. Il peut être chassé en Suisse par exemple. Et avant d'avoir disparu dans les Alpes françaises, il était complètement chassé au début du siècle chez nous dans les montagnes des Alpes du Nord.
Pourquoi est-il protégé ?
Eh ben, il est protégé parce qu'il avait disparu. Et en fait, l'homme l'a beaucoup chassé parce qu'il paraît que le bouquetin, c'est un animal qui est très bon, avec une bonne viande. Ensuite, les gens récupéraient leurs trophées, les cornes qu'il a sur la tête. Il paraît que c'est beau. Enfin, chacun trouve midi à sa porte. Et ensuite, le bouquetin, il est considéré vraiment comme le roi de la montagne. Et à l'intérieur de son cœur, il a un petit cartilage en forme de croix. Et alors, les alpinistes, avant de partir faire de la montagne, et notamment des montagnes assez engagées, ils allaient tuer un bouquetin, ils récupéraient le trophée qu'ils mettaient au-dessus de la cheminée, où ils voulaient. Ensuite, ils mangeaient la viande, et puis ils récupéraient ce cartilage en forme de croix, et ils s'en faisaient un pendentif, un collier avec un pendentif, porte-bonheur, qui donnerait la force et le prestige du bouquetin quand on est en montagne.
Avons-nous le droit de les toucher et de les nourrir ?
Bah, fondamentalement, c'est une espèce qui est protégée. Comme toute espèce protégée, on doit la laisser tranquille. On n'a pas le droit de la déplacer, tout ou partie. On n'a pas le droit de déplacer ni de détenir toute ou partie d'une espèce qui est protégée. Donc, une corne de bouquetin, par exemple, tu n'as pas le droit d'avoir une corne de bouquetin chez toi. Après, le caresser, ce n'est pas un comportement que je plébiscite. On va essayer de le laisser tranquille. On n'a pas besoin de ça. Pour avoir une belle observation, on peut le laisser largement tranquille. Donc, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas un comportement qu'on encourage. Et ensuite, là, au niveau de la nourriture, c'est pareil. Ce n'est pas interdit de les nourrir, mais ils se nourrissent bien tout seuls. Ils n'ont pas besoin de nous. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est les laisser tranquilles dans la montagne. Et bien, justement, dans la montagne, alors après, en montagne, ça dépend de la saison. L'hiver, ils vont vraiment être sur des vires rocheuses assez hauts, autour de 1500, de 2500, 3000 mètres d'altitude. Et puis l'hiver, ça c'est en hiver. Et donc, en été, on va les retrouver. En ce moment, ils sont autour du chalet du col des Montets, par exemple, aux alentours de 1400 mètres d'altitude, où ils vont venir chercher l'herbe qui est fraîchement poussée et les feuilles qui sont en train de sortir des bourgeons.
L'été, ils se nourrissent d'herbes, mais l'hiver, que mangent-ils ?
L'hiver, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils ne mangent pas grand-chose. Ils vont être vraiment en mode survie et ils vont survivre grâce à leurs réserves qu'ils ont fait en été. Et puis, s'ils arrivent à trouver quelques herbes sèches, un peu des mousses, quelques lichens, ou alors quelques carex, une petite plante qu'ils vont retrouver justement sur ces vires rocheuses dans lesquelles ils vont passer l'hiver.
Ont-ils des prédateurs ?
Alors, les bouquetins adultes, à l'âge adulte, ils n'ont pas de prédateurs. Le loup, par exemple, ne s'attaque même pas au bouquetin, en tous les cas quand il est adulte. Par contre, les jeunes, jusqu'à leur âge de 2-3 ans, peuvent facilement se faire prédater soit par l'aigle royal, soit par les renards même.
Je sais qu'ils ont des maladies. Est-ce que ces maladies sont dangereuses pour nous ?
Alors, il y en a quelques-unes qui sont dangereuses pour nous, notamment la brucellose. Après, les quatre brucelloses qui ont été revendiquées par l'homme, il n'y a rien qui dit que c'est les bouquetins qui ont transmis la maladie de la brucellose aux hommes. C'est vrai que les bouquetins sont porteurs de la maladie, mais il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que les brucelloses qui sont transmises à l'homme sont issues des bouquetins.
Alors, la femelle bouquetin, jusqu'à combien de bébés peut-elle avoir ?
Alors, l'étagne, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, la femelle bouquetin, c'est l'étagne. Alors, l'étagne, en général, elle a un petit. Ça arrive qu'elle en ait deux. Ça peut arriver des grossesses jumelaires, ça arrive assez fréquemment. Après, si on a, ça peut arriver aussi des adoptions. C'est-à-dire que quand on a une autre étagne qui a un petit et que l'étagne venait à mourir, pour diverses raisons, et ben le cabri, le petit qui serait du coup orphelin, peut se faire complètement adopter par une autre étagne. Une autre étagne qui a déjà un cabri, ou une autre étagne qui n'a pas encore eu de cabri, ou qui n'a pas de cabri, complètement. Il y a aussi ce phénomène de crèche, où une étagne ou quelques étagnes vont garder l'ensemble des cabris de la troupe, pendant que les autres vont chercher de la nourriture ailleurs.
Et jusqu'à quel âge peuvent-ils vivre ?
Alors, je crois qu'il y a des records complètement faramineux dans des parcs où il y a des bouquetins qui vivent jusqu'à 40 ans. Ben ça, c'est des cas extrêmes. Après, dans la nature, les bouquetins les plus vieux, en général, quand ils ont déjà 15 ans, c'est déjà des bons pépères, quoi.
Merci à toi, Maxence, et Monsieur Bruno.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à Hindeberg pour nous avoir permis de faire des montages.
Dédicace à mon frère et à mon père, et bonne journée.
On va maintenant passer la parole au groupe de Arianna, Louise et Cécilia et Joachim après la musique.
E sempre occupato questo telefono.